C'est toujours un très grand plaisir de recevoir ici à Bordeaux, dans les salons Albert Mola, Yves Michaud. Yves Michaud, dont la pensée est toujours extrêmement alerte, aiguë et pleine d'alacrité également. Régulièrement, Yves Michaud nous fait bénéficier de livres dont la nécessité et l'urgence s'imposent. Celui-ci a été terminé, qui s'appelle « Contre la bienveillance », a été terminé de rédiger au mois d'août 2015. Or, son actualité est frappante. Ce livre est un essai de réflexion politique sur l'état de la démocratie en France et plus largement en Europe, qui, en quelque sorte, prend appui sur un certain nombre d'événements qui ont marqué l'opinion, des élections, notamment des élections présidentielles, des référendums, mais aussi les attentats, et d'abord l'attentat du 13 novembre 2015. Et effectivement, les attentats qui ont suivi il s'agissait de janvier 2015, Charlie Hebdo, bien sûr. Et les autres. Mais les attentats qui ont suivi donc au mois de novembre 2015 ont en quelque sorte, si je puis dire, enfoncé le clou et nous ont envoyé ce qu'on peut appeler les faits à la figure. Or, votre livre est construit en 4 chapitres. Les 3 premiers chapitres concernent ce que vous appelez des faits, mais des faits qui, curieusement, sont relativement difficiles à admettre, et à décrire même, et à analyser, à cause d'opinions, de représentations et d'illusions très graves, qui nous empêche précisément de mesurer et de prendre en compte leur réalité. Et votre dernier chapitre est au fond la thèse ou les thèses que vous proposez et ce contre quoi ces thèses précisément se posent. Alors peut-être qu'on pourrait partir d'abord de ce rapport aux faits qui est si difficile.
Oui, ben d'abord, je précise, je ne suis pas un philosophe de système, je suis un philosophe empiriste. Donc les faits me semblent vraiment la pierre de touche d'une pensée réussie. Alors, je vous signale, c'est assez marrant, c'est que dans le numéro de juin de Philosophie Magazine, qui fête les 10 ans du magazine, ils ont demandé à un certain nombre de philosophes de ce qu'était la philosophie, et ils ont eu la bonne idée, parce que moi j'ai trouvé excellente, de me mettre sous la même, dans une rubrique commune avec Badiou, lui défendant la notion de système et moi l'anti-système et je dirais la recherche et l'enquête. Voilà, c'est l'opposition du système et de l'enquête. On a fait ça sans se rencontrer. Et quand j'ai reçu le numéro, j'étais vraiment très content d'être plutôt du côté de l'enquête que du côté du système. Donc, je ne suis pas un philosophe systématique, mais je pense que la réalité est ce qui doit, disons, valider ou en tout cas, je veux dire, infirmer nos idées et nos schémas conceptuels. Et de ce côté-là, d'ailleurs, Francis l'a dit, le livre a été terminé, c'est pour ça que je l'ai daté, le 25 août, mais je n'y ai pas changé une ligne. Hein. Je veux dire, je n'ai pas changé une ligne après ce qui s'est passé au Bataclan et ailleurs. J'avais déjà introduit ce que je voulais dire sur la déchéance de nationalité, moi-même, avant même que les débats fassent rage sur ces questions. Et point sur lequel, alors je ne suis pas Madame Soleil, hein, mais et comme on disait dans le temps, mais point sur où je suis assez fier, si vous voulez, malheureusement, c'est que je parlais beaucoup des problèmes migratoires et que les gens sont devenus quand même conscients des affaires migratoires bien après, plutôt à la fin de l'année et au début de cette année 2016 que l'an dernier. Voilà. Donc je crois que c'est le philosophe qui dit des choses qui ne sont pas infirmées par les faits et qui est attentif aux faits, pour moi, fait bien son travail de philosophe. Donc je ne suis pas un vaticineur, je ne suis pas un systématique, je ne suis pas un constructeur dans les nuées. Et donc voilà, il faut revenir aux faits. Alors revenir aux faits, c'est pas revenir aux faits, je dirais, journalistiques, c'est aussi un deuxième point sur lequel j'insiste beaucoup. C'est revenir au fait dans les détails, parce que la plupart du temps, et notamment à l'époque de la communication, on prend toujours les choses trop en gros, et on ne tient pas, et on va pas dans le détail. Or, très souvent, dans le détail, c'est bien différent de ce qu'on dit en gros. Si je prends par exemple le cas, et puis après on va reprendre la discussion, mais si je prends le cas des migrants, il est évident que la crise humanitaire est réelle, la compassion pour ces pauvres gens déplacés est bienvenue et de mise, mais il faut avoir, je dirais, la lucidité d'examiner en détail ce qui se passe quand il y a une crise migratoire de cette importance et qui, à mon sens, d'ailleurs, n'est pas terminée. Hein, je veux dire, il nous pend au nez d'avoir autant, sinon plus, sinon pire. Il faut voir que, si vous voulez, quand vous avez des crises migratoires de cette sorte, d'une part, derrière tout ça, vous avez la déstabilisation de certains pays. D'autre part, vous avez une logistique, c'est une logistique mafieuse, mais c'est une logistique, c'est comme du tourisme. Hein. Derrière le tourisme, il y a des compagnies low cost, des compagnies de transport, il y a de l'hôtellerie, etc. Ben là, c'est pareil. Vous avez des compagnies de transport, les gens qui mettent tous ces bateaux pourris à l'eau sont des transporteurs, ils escroquent les gens, etc. Vous avez toute une industrie mafieuse de la migration. Et puis, il faut voir aussi, si vous allez dans le détail, que la migration est aussi une arme politique. De ce côté-là, j'avais été très frappé, notamment en étudiant le phénomène du populisme. Vous savez que en Grèce, le parti populiste de gauche de Tsipras, Syriza, est obligé, pour avoir la majorité, de s'allier avec un parti qui pour nous serait plutôt d'extrême droite, un parti qui est ultra-orthodoxe, pro-Poutine. Or, le ministre de la Défense grec est membre de ce parti plutôt d'extrême droite, et le 15 janvier 2015, il avait dit, au moment du plus fort de la crise du Grexit, hein, au moment où l'Union européenne exerçait des pressions sur la Grèce, des pressions économiques, il avait dit, si vous continuez à nous forcer sur le plan économique, nous vous enverrons 500 000 migrants. Il avait dit, ça on le trouve quand on lit très attentivement la presse, etc. Donc je dis, voilà un cas où il faut analyser en détail pour, je dirais, dépasser le seul point de vue humanitaire dans le genre déclaration, les premières déclarations d'Angela Merkel qui se comprenaient, ou les déclarations du pape François qui n'a pas accueilli plus de 6 ou 8 ou 12 migrants dans son royaume du Vatican. Hein, voilà. Donc c'est ça que j'appelle revenir aux faits. Hein. Pour moi, c'est extrêmement important d'être très attentif. Alors il se trouve que j'ai toujours eu un peu une âme de journaliste et d'investigateur. Mais je vais voir de près les choses et je ne raisonne pas, si vous voulez, par grande masse, grande généralité, grande généralisation et grande spéculation. Voilà.
Voilà, donc revenir aux faits, et vous dites que ces faits, justement, qui nous sautent à la figure, en quelque sorte, sont mortifères. Alors c'est lié une sorte de refus, justement, de ce qu'il peut y avoir de dramatique dans l'existence, et du refus même tout simplement de la mort. Ce sont ces refus-là qui, en quelque sorte, entraînent cette représentation illusoire, en quelque sorte.
Oui, alors justement, si vous voulez, j'incrimine la bienveillance à deux niveaux. Je laisse de côté, on y reviendra plus tard, le niveau de la politique compassionnelle, mais je pense que la bienveillance aujourd'hui, dans nos sociétés, je dirais européennes, qui sont des sociétés à la fois inquiète, mais en même temps relativement heureuse et développée, la bienveillance a un rôle un peu hypocrite. C'est-à-dire que nous sommes bienveillants, mais jusqu'au point où notre égoïsme n'est pas trop affecté. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans mon précédent livre, qui était lui aussi pas prévu dans mon programme de travail, dans l'abécédaire que j'avais écrit chez Grasset en 2014, qui s'appelait « Narcisse et ses avatars ». J'avais parlé justement de cet individu contemporain qui est bienveillant, mais à condition que ça ne lui coûte pas trop cher ou que sa charité soit défiscalisable. Et donc je crois que la bienveillance nous sert un peu de paravent contre la réalité. C'est-à-dire, bon, les gens sont bons. Avant, c'était, le film de Jean Yann, « Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil ». Aujourd'hui, la version de « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », c'est « Tout le monde il est malheureux, tout le monde il souffre ». Et donc, il faut être bienveillant. Il y a des plaintes partout. D'ailleurs, à Bordeaux, vous avez, chez les philosophes, vous avez une grande école de philosophie plaintive, du care et de la sollicitude, mais que j'attaque très, très durement. Mais ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'aiment pas la discussion et l'argumentation, mais que j'attaque très durement dans la quatrième partie. Je crois que la bienveillance, ça nous sert un peu de paravent. Je veux dire, on se dit, c'est bien. Le monde n'est pas si terrible que ça, et en tout cas, nous allons le rendre meilleur, et on se voile un peu la face. Mon livre est un livre contre l'aveuglement. Voilà. Et par exemple, se voiler la face, c'est pas de la bienveillance, mais là, c'est une forme un peu indirecte quand même. C'est de dire, oulala, le Front National, c'est le diable. Et puis, on n'en parle pas. Regardez un petit peu les discussions politiques en France actuellement. Soit on fait comme si les Front National n'existaient pas, soit on le diabolise. Mais on ne veut pas voir sa réalité et la réalité de son implantation. Je dis ça d'autant plus à l'aise que dès 2002, lors du 21 avril 2002, j'avais alerté très, très gravement, très fortement sur la gravité de la menace et qui continue à monter, mais les gens font comme si c'était pas grave, quoi, je veux dire. Alors, ils cherchent à s'aveugler, hein, je veux dire. Et quand je parle, par exemple, du danger populiste, on rejoint le problème de la réalité. C'est que le populisme, c'est pas seulement un phénomène français. C'est partout en Europe que vous avez du populisme, et vous avez du populisme de droite comme vous avez du populisme de gauche. Le populisme de Syriza, ou le populisme de Podemos, ou même un peu le populisme du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, là, le comique italien, c'est un populisme plutôt de gauche, hein, ou d'ultra-gauche dans le cas de Podemos. Et puis vous avez des populismes de droite. Et ça, on ne veut pas le voir, je veux dire. Ou alors on le voit juste après les élections en Autriche et puis on passe à autre chose. Donc je crois qu'il faut se méfier de la bienveillance comme une manière de dire, au fond, le monde, il est pas si terrible que ça. Et s'il est terrible, bon, ben on nommera une secrétaire d'État aux victimes, quoi, en quelque sorte.
Ce qui est fait.
Je dis ça parce que c'est une de mes anciennes étudiantes. Juliette Méadel est une de mes anciennes étudiantes. Elle m'a demandé à me voir, je ne sais pas. À mon avis, elle est bien intrépide. Mais je vais la rencontrer le 21 parce que depuis des années, je lui dis qu'il ne faut pas qu'elle fasse de politique, mais elle ne m'écoute pas.
Oui, à ce propos, d'ailleurs, peut-être que on pourrait peut-être préciser... la critique que vous faites de ces populismes, au fond, ce que vous dites, c'est que tous ces populismes, au fond, mettent le doigt sur des défauts de ce qui se passe, sur des problèmes, sur des crises, mais qu'ils sont bien incapables de fournir des solutions. Et c'est cela, au fond... Le reproche que vous leur faites, c'est de ne pas être en mesure de fournir des solutions précises, concrètes. Pour vous, au fond, s'il y a des espoirs, je dirais, de sortir de ces crises, c'est bien précisément en établissant, d'une part, d'abord des diagnostics qui soient précis et justes, et ensuite de mettre au point des solutions. Et des solutions, d'ailleurs, qui sont de l'ordre de la négociation et du pacte. Et ce que vous reprochez aux politiques, notamment au moment des campagnes électorales, c'est de ne pas envisager avec assez de sérieux, préciser avec assez de sérieux, précisément, les mesures qu'ils prendraient et les pactes qu'ils concluraient. pour mettre en place ces actions.
Alors, sur le populisme, vous dites des choses très justes, mais ça demande à être bien mis encore en plus en perspective. D'abord, je crois que la montée des populismes est très significative aussi de la perte d'influence et surtout de la perte de pertinence des partis traditionnels. Bon, c'est-à-dire que c'est des partis qui ont assez bien fonctionné pendant longtemps et puis qui se sont ossifiés au pouvoir. Et puis surtout, je crois qu'ils n'ont plus de vision adéquate à une société qui est en basculement. Si j'ai écrit Narcisse et les avatars, mon abécédaire auquel je tiens beaucoup, c'est en 26 mots, c'est une sorte de diagnostic des changements profonds de nos sociétés, aussi bien en termes de technologie que de représentation, que de conception des sentiments et même de psychologie. Et je crois qu'effectivement, depuis... je dirais 2000-2005, on est engagé dans un basculement complet. Et donc, ça implique un renouvellement de nos outils intellectuels. On ne peut plus travailler avec les outils habituels, les représentations politiques que l'on avait. Ça, c'est un premier point. Ensuite, les populismes, ils prospèrent, d'abord sur la crainte, mais sur des... des faisceaux de craintes qui s'agglomèrent, mais qui n'ont pas réellement de points communs qui pourraient les fédérer fortement. Je prends un exemple. Je prends un exemple parce que j'en parlais hier même en Belgique avec des gens dans une grande entreprise très performante qui venait de faire un voyage d'études en Californie. Bon, vous voyez, il y a ce phénomène aujourd'hui, grâce aux technologies qu'on appelle d'ubérisation, c'est-à-dire grâce à la possibilité de mettre en relation directement les individus par les Internet et toutes les applications de communication, vous pouvez échanger des services et vous échangez des services qui sont des services très souvent commerciaux. Mais vous pouvez aussi échanger des services gratuits. C'est-à-dire vous avez besoin d'un véhicule avec chauffeur, au lieu de chercher un taxi, vous avez des applications qui vont vous permettre de trouver tout de suite un VTC qui va venir à votre demande. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ubérisation, qui a comme contrepartie qu'effectivement, ça détruit la relation de travail, la relation salariale fixe et contractuelle de travail. Et d'ailleurs, actuellement, si vous lui suivez la presse, l'URSSAF, l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et de l'allocation familiale, est en train d'essayer de poursuivre Uber en disant non, vos travailleurs sont en fait des salariés, ce sont des salariés cachés, donc vous devriez cotiser, ce ne sont pas des auto-entrepreneurs qui sont à leur compte. Bon, si vous prenez ce phénomène de la ubérisation, qui est à peu près, je dirais, impossible à encadrer, puisqu'il tient aux technologies. Hein, c'est-à-dire, parce qu'à la limite, vous pouvez très bien, un phénomène d'ubérisation, c'est vous avez besoin d'une perceuse et vous n'avez pas forcément, on n'en avait pas forcément une et vous n'avez pas forcément envie d'en acheter et vous pouvez contacter dans votre quartier les gens qui ont une perceuse, hein, qui vous la prêteront. Alors ça peut être soit en échange de service, soit ils vous la louent pour 3 francs 6 sous et vous avez votre perceuse. Bon, j'en parlais hier du phénomène d'ubérisation parce qu'il bat son plein en Californie. Or, c'est un cas typique, si vous voulez, de situations nouvelles qui mènent au populisme. C'est-à-dire que sont concernés par l'ubérisation un certain nombre de travailleurs hyper performants, que tout le monde s'arrache et qui ne veulent pas être salariés. C'est-à-dire que vous avez dans les nouveaux métiers technologiques, vous avez des gens hyper compétents, hyper rapides, hyper inventifs, qui ne veulent pas être salariés d'une boîte, qui veulent être prestataires de service. Donc qui s'ubérisent volontairement. Ils travaillent comme en profession libérale, en quelque sorte. Et puis en même temps, vous avez de l'autre côté, en bas de l'échelle, vous avez le pauvre travailleur qui est sans qualification, qui va être contraint à l'ubérisation, par exemple, pour livrer des repas de restaurant. Actuellement se développe beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas à Bordeaux, mais en tout cas à Paris c'est le cas, et dans toutes les autres capitales du monde, la livraison de nourriture venant par les restaurants et les traiteurs, tous les gens qui en vélo livrent la nourriture sont sur des statuts Uber, c'est-à-dire sont des auto-entrepreneurs qui travaillent souvent pour plusieurs prestataires pour plusieurs restaurants, qui, et là, c'est un prolétariat. Et donc, vous voyez que vous allez vous retrouver avec une catégorie, au nom du le même phénomène, vous met en présence d'une catégorie hyper exploitée et d'une catégorie privilégiée. Et nos sociétés sont de plus en plus comme ça, éclatées. Vous avez, par exemple, des gens qui sont précaires, d'une vraie précarité, hein, les contrats à durée déterminée ou à très peu, très faible horaire, indéfiniment renouvelable, par exemple pour les caissières de supermarché. Et puis, vous avez des gens qui sont dans une précarité volontaire parce qu'ils sont, par exemple, des grands comédiens. Hein, tout ça. Et ce que fait le populisme, c'est que très souvent, il joue sur, je dirais, l'amalgame, l'agglomération de ses plaintes. Je prends aussi l'exemple, vous avez les gens très pauvres, des gens très pauvres, mais qui ont la sécurité de l'emploi. Ce que j'appelle le prolétariat de la fonction publique, les catégories C, sont des gens qui gagnent à peine plus que le SMIC et en fin de carrière qui gagnent peu. Donc ils sont très peu. Ils sont pauvres, mais ils ont sécurité de l'emploi. Puis à côté de ça, vous avez des gens qui sont ultra précaires et qui sont pauvres ou qui sont moins pauvres. Et au fond, le populisme, il pêche dans toutes ces eaux-là parce que.
Par amalgame.
Par amalgame. Et au fond, toutes ces plaintes, elles se recoupent à un moment ou à un autre. Mais évidemment, quand il s'agit de forger un programme commun. Ça explose. Hein. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut dire, c'est on est contre les étrangers, on est contre l'Europe, on est contre l'euro, et on est contre les aides sociales qui sont dispersées dans tous les sens et qui sont inintelligibles. Voilà, ça, on peut le dire. Mais après, qu'est-ce qu'on dit ? Sur quoi dira-t-on qu'on est pour ? Alors, ce que je dis, et du coup, ce qui se passe, c'est que pour contrer le populisme, les partis traditionnels, et on l'a vu aussi bien avec Sarkozy, qu'avec Hollande, c'est encore plus caricatural avec Hollande, se transforme en guichetier. C'est-à-dire, en fonction de toutes ces plaintes différentes, on va accorder à un tel... Regardez, les routiers, on les acceptera de la loi travail, et puis la SNCF, eh bien, on gardera leur statut, et puis on va répondre, en fait, niche par niche. Ça devient ce que j'appelle de la démocratie consumériste.
C'est du clientélisme.
C'est ce qu'on appelait dans le temps du clientélisme. Mais là, c'est un clientélisme qui devient très, très performant. C'est-à-dire que c'est du marketing. C'est du marketing de niche. Et donc, c'est ce que ça développe, ce que j'appelle l'État guichet. Hein. Et à ce moment-là, l'État se met, les partis traditionnels se mettent à courir après les revendications populistes. Et bien évidemment, ils courent moins bien que le populisme, puisqu'ils sont obligés de proposer des sortes de cocktails de mesures qui n'ont elles-mêmes pas de cohérence réelle, ou bien qui se suivent et puis qui se contredisent, etc. Et donc, ce que je pense, si vous voulez, pour lutter contre le populisme, d'abord, ça ne se fait pas d'une fois. Et ça ne peut se faire qu'en revivifiant un programme démocratique, mais un programme démocratique républicain extrêmement, je dirais, contraignant, mais en même temps simple. C'est-à-dire que justement, il faut que les gens retrouvent le sens du commun. Or, le commun, ils ont peu de choses en commun. Nous sommes tous différents. Mais en revanche, on peut avoir du commun sur les quelques principes qui font que nous considérons qu'il est intéressant de partager la même communauté. C'est pour ça que quand les gens me disent, par exemple, dans votre livre, je ne voulais pas faire un livre trop long, mais vous ne proposez rien pour l'avenir. Si, par exemple, je pense que, par exemple, la France, elle aurait besoin fondamentalement, quels que soient les partis au pouvoir, elle a besoin d'une réforme fiscale.
Voilà.
Parce que la fiscalité est totalement illisible. Hein. Donc, à la fois, tout le monde se plaint d'en être la victime, y compris ceux qui ne sont pas imposables, hein, qui disent « mais on paye trop de TVA », etc. Et de fil en aiguille, je veux dire, le fait que... nous participions de la société à travers le paiement d'un impôt, je veux dire, disparaît complètement. Je suis scandalisé de voir que vous avez 37 millions de foyers fiscaux en France et qu'il n'y en a que 17 millions qui payent l'impôt sur le revenu. Du coup, je dirais, le crypto-fascisme de classes moyennes qui disent non à l'impôt, non à la perception, non au fardeau fiscal est tout à fait intelligible parce que vous avez à côté de ça d'autres personnes qui ne savent pas pourquoi elles ont des bénéfices sociaux. Elles touchent des bénéfices sociaux, mais sans... pourquoi ? Parce que c'est l'État bienveillant, c'est le guichet qui est ouvert, mais Il faudrait que ces personnes comprennent que si elles touchent les bénéfices sociaux, c'est aussi parce qu'elles font partie de la communauté républicaine. Donc, même symboliquement, elles y participent d'une certaine manière. Et je pense que la France ne viendra à bout du populisme que si on fait une réforme fiscale profonde et qui ne consiste pas à dire on va faire payer les riches ou on va faire payer les pauvres. Non, une réforme fiscale qui paraisse juste. Et qui paraissent justes parce qu'elle obéit à deux ou trois principes, c'est-à-dire, je pense tout simplement, que les gens aient à la fois des répartitions et des contributions, ce qu'ils aient des bénéfices contributions, et que, avec une progressivité de ces répartitions et contributions qui soient lisibles, hein, qui soient lisibles avec un impôt sur le revenu universel, progressif, et avec des taux d'imposition très bas au départ et qui peuvent être très hauts pour les toutes dernières tranches, en posant plus la question par exemple d'un impôt sur la fortune. Je veux dire, par exemple, l'impôt sur la fortune est quelque chose qui m'a toujours indigné parce qu'il est payé par 310 000 personnes en France. C'est pas possible qu'il y ait que 310 000 personnes qui aient de la fortune. Et quand vous regardez les déclarations des politiciens, je les ai toutes regardées, hein, de patrimoine. Les bras vous en tombent, je veux dire. Bon, ce qui est arrivé à Macron, mais ils sont tous dans ce cas-là. Je veux dire, si vous prenez notre ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, ce qu'il cache bien, parce qu'il a falsifié sa notice Wikipédia, il cache qu'il a cumulé pendant un certain temps des fonctions d'avocat d'affaires et puis de député. Il a rectifié sa notice Wikipédia en ce sens. Et il était dans le plus grand cabinet d'affaires français, Auguste et de Bouzy. Non pas le balayeur, il devait être balayeur chez Auguste et de Bouzy, parce que normalement tous les associés touchent au moins 1 million d'euros par an chez Auguste et de Bouzy. Or, il déclare un patrimoine de 600 000 euros. Je veux dire, je ne sais pas comment il fait, il doit aller au casino, hein. Et il perd en plus au casino. Mais vous voyez, donc il faut qu'on retrouve sur quelques principes. La conscience forte de faire partie d'une communauté auquel il est souhaitable d'appartenir, et pas une communauté qui soit, je dirais, sur mesure pour chacun, parce qu'au bout du compte, tout le monde regarde son voisin en disant, lui il a droit à ça et moi pas à ça, et je dirais, comment est-ce que je pourrais avoir droit à ça? Et donc il n'y a plus aucune solidarité.
Donc il faut que ce soit juste et lisible.
Alors juste et lisible, mais au fond, moi ce sur quoi je reviens, j'ai écrit un livre sur le mérite, et mon livre là, sur le compte de la bienveillance, en fait c'est la suite du livre sur le mérite, dans lequel j'avais analysé, ça m'avait beaucoup demandé d'efforts, la notion d'égalité. Et j'avais montré que plus on est exigeant sur l'égalité complète, plus on fait exploser le concept d'égalité, parce que justement, on le customise, comme disent les jeunes aujourd'hui, on le customise en fonction des besoins de chacun, en fonction des handicaps de chacun et des avantages de chacun. Et donc, si on veut avoir un concept d'égalité qui fonctionne, il faut qu'il soit lisible sur un certain nombre de choses. Égalité, par exemple, devant l'impôt, fondamentale. C'est pour ça que, par exemple, moi, je pense que la déchéance de nationalité devrait concerner non pas seulement les terroristes, mais aussi les gros fraudeurs fiscaux et puis les expatriés fiscaux. Hein, moi, j'ai des amis qui sont expatriés fiscaux. Je ne vois pas pourquoi. Et quand ils reviennent en France, ils nous donnent des leçons sur la politique. Ils sont Luxembourg, ben, qu'ils y restent avec M. Juncker. Ils n'ont pas de raison qu'ils gardent le statut de citoyen français. Ils peuvent devenir luxembourgeois s'ils veulent, ou apatrides. Je pense qu'il faut qu'il y ait une égalité de contribution fiscale, et que ça a été bien étudié dans les théories de la justice au XIXe siècle. Il y a au moins un point où les philosophes et les économistes ont fait des théories très fortes et solides de la justice, notamment la théorie de Rawls, mais aussi chez Amartya Sen. Oui. Il y a des conceptions très solides de la justice.
Et avec finesse en même temps.
Et très fine aussi, et où on voit jusqu'où on peut aller et jusqu'où il ne faut pas aller. Et donc, je pense que, par exemple, l'égalité en matière d'éducation, elle est très discutable aujourd'hui en France. Je veux dire, il y a une fausse égalité en matière d'éducation. Donc, il y a quelques domaines, pas beaucoup, hein, sur lesquels on peut, je dirais, rappeler aux gens qu'ils font partie de la même communauté et que c'est important et intéressant d'en faire partie de la communauté. C'est pour ça aussi que quand je recommande la déchéance de nationalité, donc en créant des apatrides, mais je peux m'expliquer plus si vous voulez des questions. Si vous avez des questions
parce que la question, c'est l'apatride qui fait peur en définitive.
Oui, mais alors là, on va entrer, j'entraide tout de suite, c'est que il faut regarder les choses de près. Les Nations Unies ont fait en 1954 une convention sur l'apatriderie qui était une convention favorable parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'apatrides à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est 54 ou 51 parce que je confonds toujours les deux dates. Vous allez voir pourquoi. Il y a une convention des Nations Unies que la France a signée et a ratifiée où on définit le statut d'apatride comme un statut positif. Un apatride dans un pays, c'est quelqu'un qui a les droits d'un étranger correctement traité. Donc du coup, il n'a pas effectivement accès aux services sociaux, etc. Mais il est comme vous quand vous êtes en vacances à l'étranger. Hein. Il est protégé par les lois, il doit respecter les lois, mais il a un statut, il n'est pas du tout un paria. Ensuite, il s'est trouvé qu'il y a eu une autre convention, je ne sais pas si elle est de 61 ou 64, de New York, que la France a signée mais n'a pas ratifiée. Donc ça en dit long sur le fait que la classe politique française n'était pas très chaude là-dessus, où les pays s'interdisent, les signataires qui ont ratifié s'interdisent de créer des apatrides, renoncent à en créer. Mais je dirais, la France n'est pas liée à ça. D'ailleurs, dans le code civil, je n'ai jamais pas compris pourquoi on a fait cette foire là-dessus, parce que dans le code civil, la déchéance de nationalité des binationaux est déjà prévue. Hein, je veux dire, et elle a déjà été d'ailleurs appliquée. Mais je dirais, rien n'empêcherait que pour un certain nombre de manquements gravissimes au contrat social, on crée des apatrides sur place. Et pas seulement pour des binationaux. Parce qu'on voulait réserver ça aux binationaux en pensant qu'on les expulserait et qu'ils auraient où aller. Mais créer des apatrides sur place, ça ne pose aucun problème. Et moi, je mets quatre conditions. Je vois quatre conditions parce qu'elles ont à voir avec le contrat social. C'est le terrorisme ou, disons, la trahison. Deuxièmement, la fraude fiscale massive. Parce que je considère que ça, c'est une négation du contrat social. L'impôt est vraiment une obligation. L'expatriation fiscale, ça revient, c'est pas la même, parce que c'est pas une fraude, mais je vois pas ce qui vous retient dans votre pays. Alors, l'expatriation, quand c'est pas une expatriation professionnelle, hein, je veux dire l'expatriation de gens qui volontairement deviennent résidents d'un autre pays pour payer les impôts dans ce pays-là. Et puis, quatrième cas, qui pour moi est l'équivalent d'un crime contre l'humanité en droit international, c'est les actes de barbarie dans les actes réprimés pénalement. Et je pensais notamment, dans ce cas-là, pour moi, le cas d'actes de barbarie justifiant pleinement la déchéance de nationalité, c'est le cas de l'enlèvement d'Ilan Halimi et en 2006 par la bande de Youssouf Fofana. Parce que là, je pense que c'est une abdication, un renoncement total à l'humanité et que ça doit être sanctionné par une sorte de peine de mort civile. Quand je parle de déchéance de nationalité, je m'inscris totalement dans la lignée des deux premières constitutions de la Révolution française, la constitution de 91, qui n'était pas républicaine puisqu'il y avait une monarchie constitutionnelle, mais qui prévoyait la déchéance de nationalité pour les cas que je viens de dire, hein, plus ou moins, et puis la constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée parce qu'il aurait fallu faire des élections et que les montagnards les auraient perdues, mais qui est une très belle constitution, qui prévoit aussi la déchéance de nationalité pour les traîtres à la patrie, pour ceux qui commettent des crimes gravissimes et ceux qui sont qui renoncent à exercer la plénitude des droits de citoyen. Vous voyez, je veux dire, ça rappelle, vous voyez, c'est pas, ça a l'air des points de détail, mais ça n'en est pas parce que ça rappelle les fondamentaux du contrat social. Les fondamentaux du contrat social, c'est la liberté, vous devez respecter la liberté de tous vos concitoyens, l'égalité, mais définie de manière lisible, et puis plutôt que parler de fraternité, mais la solidarité, tout simplement, parce que la redistribution des richesses par l'impôt, ça fait partie de la théorie de la justice.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous rappelez toutes ces philosophies à partir de la Renaissance, d'ailleurs, qui ces philosophies du contrat social et du pacte social.
Alors ça, c'est un point, si vous voulez, qui moi-même m'a non pas surpris, mais qui m'a fait mesurer mon incompétence professionnelle. Pourtant, 40 ans d'enseignement de la philosophie à l'université, c'est que j'avais enseigné le contrat social tout le temps. On me l'avait enseigné, et Dieu sait si des gens très bien me l'avaient enseigné, et personne ne nous avait fait remarquer, et j'avais jamais fait remarquer jusqu'à ce livre, c'est que les théories du contrat social, à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, ont toutes été élaborées contre les guerres de religion. Donc vous voyez l'actualité que peut avoir aujourd'hui la notion du contrat social. C'est-à-dire que au XVIe siècle, il se passe deux choses concomitantes. C'est d'une part la définition de des conditions de la loyauté, de l'obéissance, devient floue. Parce que est-ce qu'on obéit au pape? Est-ce qu'on obéit au roi? Est-ce qu'on obéit au prince? Est-ce qu'on obéit à l'Église? Est-ce qu'on obéit à son suzerain? Ça devient flou parce que
c'est la naissance de l'État-nation.
Et c'est le début, mais il n'est pas encore bien né. D'accord. Donc, si vous voulez, par exemple, vous êtes allemand, est-ce que vous obéissez au pape? Est-ce que vous obéissez aux évêques? Est-ce que vous obéissez au prince ou à l'empereur? Hein, vous voyez, on ne sait plus à qui obéir. Donc, il faut redéfinir, je dirais, les conditions d'obéissance. Mais surtout, c'est la guerre de tous contre tous. Les massacres des guerres de religion sont épouvantables.
La concomitance entre la date de parution du traité de Jean Baudin et la Saint-Barthélemy.
Ah, exactement, tout ça. Et d'ailleurs, on a soupçonné Baudin d'avoir été protestant. Hein, je veux dire, tout ça, dont on l'a soupçonné d'être juif, etc. Et pourtant, ce n'est pas un contractualiste. Mais son idée forte de la souveraineté, c'est l'idée, effectivement, de la communauté politique. Et dans le contrat social, vous avez deux choses. C'est une idée forte de la souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas le souverain qui commande, c'est la souveraineté du peuple, toujours. Quelle que soit la personne à qui le peuple, ou l'instance auquel le peuple va déléguer le pouvoir exécutif lui-même. Hein. Entre parenthèses, d'ailleurs, et puisqu'on est dans la ville de Montesquieu, et Dieu sait s'il est génial, lui aussi, il faut y revenir, sa théorie de la séparation du pouvoir est fondamentale et ça fait partie de la définition de la démocratie. Parce qu'on dit toujours, séparation ça sert aux hommes politiques quand ils sont inculpés, ou mis en examen, à dire « je fais confiance à la justice de mon pays ». Mais c'est pas, Montesquieu, il ne s'intéressait pas beaucoup, au contraire, il n'était pas très pour l'indépendance totale des magistrats, parce qu'il en connaissait pas mal sur les magistrats, en étant lui-même un. Mais en revanche, ce sur quoi Montesquieu insiste, c'est la séparation fondamentale entre l'exécutif et le législatif. Hein. Et tout pouvoir qui mélange l'exécutif et le législatif est appelé par Montesquieu d'abord, par Voltaire ensuite, mais par Herder et ensuite par Kant lui-même et ensuite par Tocqueville, un pouvoir despotique. Or aujourd'hui, par exemple, si vous prenez la France vit dans une démocratie despotique. Tout simplement parce que qui c'est qui fait les lois? C'est le gouvernement. Rappelez-vous, loi Thévenoud, loi Duflot, toutes les lois ont un nom de ministre. Ah, ça, si ce n'est pas l'exemple même du despotisme démocratique, c'est-à-dire la confusion de l'exécutif et du législatif. Bon, donc, les théoriciens du contrat définissent la souveraineté comme souveraineté du peuple, et que ce soit Baudin, etc., mais une souveraineté forte et qui n'est pas monnayable et en petite monnaie. Et puis ensuite, les quelques principes auxquels on va adhérer pour constituer ce souverain et pour que la communauté, et qui sont des conditions d'adhésion ou d'exclusion de la communauté.
Pour qu'existe la paix civile.
Pour qu'existe la paix civile, qu'à partir de là, il puisse y avoir de l'industrie, qui est d'industrie industrieuse, hein, je veux dire le caractère industrieux de l'homme, la paix, les bonnes relations, la sociabilité, l'échange, le commerce, l'échange des idées, etc. Et donc, je me suis souvenu, en retravaillant tout ça, je me suis dit, mais moi-même, je n'ai jamais dit, au fond, à mes étudiants, que le contrat social, les contrats sociaux avaient été écrits en grande partie contre les guerres de religion. Et que, alors, avec des versions qui sont différentes sur la place que doit tenir la croyance, hein, quelquefois on fait une petite religion d'État, mais qui est pas bien, qui demande pas grand chose, hein, qui coûte pas cher. Quelquefois, comme Spinoza, que j'admire merveilleusement, là, c'est dévastateur, hein, si on appliquait le spinozisme à l'islam, et, je veux dire, les gens, ils n'en reviendraient pas. Hein, et, puisque Spinoza dit une chose fabuleuse, il dit, c'est sûr que Dieu a parlé aux prophètes, ça c'est certain, il ne met pas ça en question, mais d'abord, est-ce que les prophètes ont compris Dieu? Ça, on n'était pas là pour le savoir, hein. En quelle langue il leur a parlé, etc. Ben, parce que c'est le problème de la langue du Coran ou de la langue de l'écriture, des écritures. Hein, je veux dire, quand est-ce que ça a été écrit? Est-ce qu'ils ont compris? Et puis nous, est-ce qu'on comprend les prophètes? Donc, bon, une fois qu'on a posé ces deux questions,
c'est la question de l'interprétation,
pour lesquelles c'est difficile de répondre oui, catégoriquement, ben à ce moment-là, la réponse de Spinoza, c'est chacun croit en son fort intérieur ce qu'il veut, liberté de croyance absolue, mais tolérance absolue. Enfin, c'est tout. Et la réponse est assez simple. Pour moi, c'est ma position. Hein. Je veux dire, je suis non religieux, mais je respecte les gens qui ont le sentiment religieux, simplement qu'ils le gardent pour eux, leurs proches, et qu'ils soient tolérants. Enfin, c'est tout.
Le terme même de tolérance est très important à cette époque, chez Locke, chez Voltaire, etc.
Oui, exactement, avec un principe que j'ai toujours fait mien, puisqu'il est chez Locke, c'est qu'il n'y a pas de tolérance pour les intolérants. Voilà. C'est là, il n'y a pas de bienveillance aussi. Moi, ma pensée vient de ces époques-là. Hein, je veux dire.
Alors, il y a autre chose aussi qui m'a frappé, c'est au fond l'absence de vision politique que vous remarquez dans le personnel politique à la fois français et européen.
Oui, alors ça c'est un point. Bon, c'est facile de leur taper dessus, mais en même temps, il faut comprendre comment ça se passe. D'abord, les politiciens, ils sont entièrement tombés prisonniers de la communication. Donc, ils passent littéralement leur temps à communiquer. Et quand je dis ils passent leur temps, si vous suivez une journée d'un Premier ministre ou même d'un président de la République, vous verrez qu'ils parlent tout le temps. Donc ils n'ont pas le temps de travailler. Alors, il se trouve que j'en connais pas mal directement d'hommes politiques. Et j'ai quand même... disons 45 ans de circulation dans le monde académique et aussi politique et d'entreprise, etc. J'ai connu plein de gens. Ils ont de moins en moins le temps de travailler et surtout le moins en moins de temps de réfléchir. Donc en fait, ils sont prisonniers de leurs conseillers. L'homme politique aujourd'hui est conseiller est prisonnier de ses conseillers, lesquels... Je veux dire, ils organisent assez mal leur système de conseil, en quelque sorte, parce que c'est possible. C'est normal qu'un homme politique soit conseiller, mais il faut qu'on organise ça de manière assez solide. Là, c'est quand même assez... ce qu'on appelle les... Vous savez, en France, vous lisez ça, les visiteurs du soir. Hein, ceux qui allaient voir Mitterrand le soir, ceux qui vont voir Hollande le soir, ceux qui vont voir Sarkozy le soir. C'est pas comme ça qu'on conseille. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Il faudrait d'ailleurs avoir très clairement des think tanks et des think tanks qui soient bien organisés et qu'on lise les rapports. Hein, parce que il y a des think tanks français qui produisent des rapports intéressants, mais les politiciens les lisent pas. Allez sur le site de la documentation française et vous verrez les 1000 rapports sur l'état de l'économie française qui ont été faits depuis une dizaine d'années, dans lesquels tous les diagnostics sont là et souvent très consonants. Hein, mais bon, personne ne les met, on en demande un de plus la fois suivante, etc. Donc les hommes politiques ne sont pas du tout, comme ils sont tout le temps dans la communication, ils ne sont pas dans la connaissance, et surtout, je dirais, ils ne sont pas du tout dans la réflexion. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Hein. Ils sont pris par... alors, ce n'est pas entièrement de leur faute, hein, parce que c'est aussi, je dirais, la loi de la communication aujourd'hui. Par exemple, la sottise de Merkel quand elle a dit « nous pouvons accueillir tous les migrants », etc., c'était sous le coup de l'émotion, sous le coup des images du petit Eilan mort noyé, sous le coup de la pression des médias. Et ça partait d'un bon sentiment, puisque les Allemands ont une longue expérience d'accueil de migrants compte tenu de l'accueil de tous les réfugiés d'origine germanique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la restructuration de l'Europe. Donc toutes les populations, toutes les diasporas allemandes sont revenues. Il y a eu ensuite l'intégration de l'Allemagne de l'Est. Donc les Allemands ont une tradition, je dirais, luthérienne et une tradition nationale d'accueil des migrants. Mais c'était typiquement le genre de choses qu'il ne fallait pas dire. Il fallait pas faire de déclaration. Il fallait attendre ou faire une déclaration plus alambiquée, etc. Parce que vous lancez à ce moment-là des très mauvais signaux. Hein. Or, les signaux, il faut voir qu'ils sont immédiatement récupérés par d'autres médias qui les répercutent auprès des gens qui sont susceptibles d'entrer en migration. Donc il faudrait que les politiques retrouvent le chemin de la réflexion. Mais d'ailleurs, je vous dirais une chose, c'est que il y a énormément de secteurs dans la société où les gens éprouvent le besoin de retour de la réflexion. Hier, j'étais à Bruxelles, dans cette grande entreprise de médicaments de pointe, où il n'y a que des gens intelligents. Puisque c'est tous des bons scientifiques, ils sont dans des recherches de pointe, et ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir et qu'il faut leur réapprendre en quelque sorte, à prendre du temps, à analyser des dossiers, etc. Et j'y étais parce qu'on était en train d'organiser un séminaire à leur demande sur leur apprendre à réfléchir à des gens intelligents, excusez du peu. Et moi, par exemple, j'ai proposé, et ça a été retenu, de leur donner une batterie de documents en dehors de leur métier, parce qu'ils sont formatés par leur métier, donc il y a les biais professionnels qui réapparaissent, d'en donner une batterie de documents, par exemple, sur la question d'Orient, sur la question syro-irakienne, depuis le XVIIIe siècle. Parce que vous avez plein de textes de voyageurs du XIXe siècle qui, si vous ne savez pas la date, vous croyez qu'ils ont été écrits aujourd'hui. Hein? Parce que les termes du problème en des langues différentes sont là. Et donc, apprendre aux gens à réfléchir et à prendre du recul et puis à peser des facteurs. Mais les hommes politiques, effectivement, aujourd'hui, ils ont des logiciels qui sont tout au point, qui, à mon avis, sont obsolètes. Ils n'ont plus le temps, ils ne font que parler. Hein, et ils sont très mal organisés en termes de conseils.
Hein, alors qu'existent des gens qui sont capables de donner de tels conseils.
Oui, mais alors, si vous voulez, les think tanks français, moi j'ai été souvent sollicité et j'ai toujours refusé d'y participer parce qu'ils fonctionnent de la manière suivante. Alors d'abord, quand on est à gauche, on se ferme sur des gens de gauche. Donc là, il y a une sorte de dogmatisme presque d'intolérance. Et quand on est à droite, c'est l'inverse. On essaye de draguer des gens de gauche pour pouvoir avoir un mélange. Donc, c'est ni fait ni à faire. Et puis surtout, les think tanks sont structurés sur le mode du bénévolat et du financement d'entreprise. Donc, ils ne sont pas structurés comme des institutions, je dirais, à but non pas lucratif, mais comme des entreprises qui ont des rentrées et des sorties. Et elles ne sont pas structurées non plus comme des centres de recherche. Donc, c'est un peu des clubs mondains. Hein, c'est des clubs mondains où on passe, où on se rencontre, on se fait des conférences, des machins comme ça. Puis, il y en a un qui a mieux parlé, etc. Un think tank politique, ça devrait afficher sa couleur politique, parce qu'on peut avoir des différences politiques fortes, afficher sa couleur politique, avoir des chercheurs à lui recrutés sur contrat et payés, mais pas pour toute la vie, hein, c'est pas le CNRS, et puis faire un certain nombre de rapports courts qui sont donnés aux hommes politiques, en leur demandant quand même de les lire, et à ce moment-là, ils font leur choix. Mais il faut que le processus de décision soit très bien structuré. Je me rappelle, quand j'ai publié le livre sur le mérite, j'avais, c'est une anecdote, parce qu'on parle de choses sérieuses, il faut quand même sourire, j'avais reçu un appel, il y a un truc qui s'appelle le club de l'entreprise, ou je ne sais pas quoi, qui regroupe tous les plus grands dirigeants français du CAC 40, la fondation d'entreprise, etc. Alors ils me disent, vous avez publié un livre sur le mérite, il faut que vous veniez nous en parler. Alors, je dis quand. Alors, il me dit, ben, on va vous inviter avec un déjeuner à la fondation de l'entreprise, etc. Alors, je dis, combien vous me payez? Ils me disent, rien, parce que vous allez rencontrer tous les gens du CAC 40. Alors, je dis, ça, c'est très bien. Et puis, je disais ça, j'aurais pu y aller pour rien, mais je voulais leur faire dire, vous allez rencontrer tous ces gens très bien, donc estimez-vous payé pour aller voir Monsieur Mestralet, hein, c'était lui le président. Et puis je lui dis, mais attendez, ça sera pendant le déjeuner? Oui. Oh, je lui dis, écoutez, un, je vais pas manger, et deux, ils vont pas m'écouter. Alors donc, et vous me payez pas. Alors, ça ne va pas. Parce que c'est vrai que, vous voyez, c'est le fonctionnement français. C'est-à-dire, on appelle quelqu'un, puis entre la poire et le fromage, on voit s'il a dit quelque chose que vous avez entendu entre deux bruits de fourchette, etc. C'est pas sérieux. C'est pas du boulot, quoi. C'est pas comme ça qu'on travaille. J'ai été invité sur la violence par des think tanks américains. Je peux vous dire que là, ça travaille. Je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont, on me dirait qu'ils ne prennent pas toujours des bonnes décisions, mais ils peuvent se permettre d'avoir des hommes politiques pas très bons, hein, parce que les think tanks derrière travaillent assez bien. Même Trump peut devenir intelligent, un de ces quatre. Hein.
Et puis il y a aussi les universités américaines derrière aussi, peut-être.
Oui, mais, non, mais les universités, alors là, justement, les universités américaines, elles sont beaucoup plus soucieuses de leur déontologie. C'est-à-dire que si les gens veulent conseiller des politiques, à ce moment-là, ils vont dans les think tanks et ils se mettent en congé des universités. D'accord. Et moi, je pense aussi que ces points de déontologie sont très importants. Hein. Je veux dire, on n'a pas à utiliser le CNRS ou l'École des hautes études en sciences sociales comme vivier de think tank. Vous voyez, parce que je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Tout de même, Max Weber a écrit des choses très bien là-dessus, hein, dans Le savant et le politique. Et il faut revenir quand même aux classiques. Hein, et ils n'étaient pas toujours stupides.
Peut-être que pour conclure, on pourrait insister sur la différence que vous faites justement entre le domaine de la morale et le domaine de la politique. Puisqu'au fond, vous parlez de sentiments moraux et de sentiments politiques, mais vous dites que l'erreur, c'est de les mélanger, c'est de les confondre, et que la politique implique une séparation d'avec la morale.
Ah oui, fondamentalement, c'est-à-dire que... mais là encore, on retouche des choses on revient sur des choses qui ont déjà été étudiées et par des bons esprits. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est un sentiment qui relève de la sociabilité. Mais la politique, ce n'est pas la sociabilité. C'est important qu'il y ait de la sociabilité, mais vous pouvez avoir très bien, on l'a vu avec les régimes totalitaires, vous pouvez avoir une politique extrêmement autoritaire sans aucune sociabilité, hein, où les gens sont ennemis les uns des autres parce qu'ils ont peur, ils sont surveillés par la police. On ne peut pas faire, je dirais, la politique comme la nouvelle... Ce n'est pas la nouvelle Héloïse, la politique. Faites une communauté de gens qui s'aiment bien, qui reconnaissent chacun la pureté de leur âme et qui vivent sur cette sorte d'échange des spiritualités. Mais non, la politique, c'est des intérêts qui sont bien plus graves, je dirais, et pas seulement les nôtres aussi. C'est-à-dire que si vous vivez dans la communauté de la nouvelle Héloïse, bon, bah, tout ce qui est en dehors, ça ne vous préoccupe pas. Hein, et aujourd'hui, je veux dire, il y a plein de communautés, soit de base ethnique, soit de base sentimentale, qui font fi justement des conditions de contexte dans lesquelles l'action politique se déroule. Parce que quand je condamne tout ce qui est étranger à la politique et qui a sa place à l'intérieur des sphères où ça a sa légitimité, je ne condamne pas seulement la bienveillance. Hein, je veux dire, il y a, les communautés religieuses ne sont pas des communautés politiques. Les communautés claniques ne sont pas des communautés politiques. Les communautés ethniques ne sont pas des communautés politiques. La communauté politique, c'est faire société ensemble sur la base d'un certain nombre de principes. C'est pour ça que mon livre est aussi, quand les gens me disaient « Ah mais vous allez vous retrouver chez les réactionnaires », je disais « D'abord, je m'en fous ». Et puis surtout non, parce qu'il y a au moins un point d'ancrage dans mon livre qui est contraire à tout ce qu'ils disent. C'est que moi, je ne suis pas contre, mais je trouve que les identités, toutes les pensées identitaires, sont des fictions plus ou moins sympathiques et agréables, parce que la fiction folklorique, c'est agréable. Hein. Moi, je suis lyonnais et je tiens à mon identité lyonnaise. Hein. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être de Lyon. Hein. mais c'est pareil pour les Bordelais, etc. Mais ce n'est pas avec la communauté lyonnaise que je fais de la politique, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut que la communauté politique soit bâtie sur un certain nombre de principes intellectuels forts. Je suis totalement contre l'idée le ministère de l'identité nationale qu'on a eu, hein, je veux dire. Une communauté politique fondée sur la religion, c'est une communauté de croyants, ce n'est pas une communauté de citoyens. Donc moi je dis revenons en fait au principe de la citoyenneté. Il y a d'autres bases de la politique, mais c'est pas les nôtres et c'est pas les formes supérieures.
Voilà, parce que là nous parlons de citoyenneté démocratique.
Citoyenneté démocratique et plus encore je dirais républicaine, parce que démocratique, je me méfie du terme dans la mesure où il y a ces risques très importants de démocratie despotique. par confusion des pouvoirs ou démocratie directe. Et je suis très suspicieux, soupçonneux de choses comme Nuit debout, si vous voulez, parce que là, ça ressemble quand même beaucoup à la nouvelle Héloïse. Hein. Vous allez vous asseoir par terre, place de la République, et puis vous levez les bras, ou bien vous faites comme ça quand des gens ne sont pas contents. Mais ce n'est pas comme ça que vous élaborez des décisions qui soient sensées, pensées, et qui puissent être applicables. Je dirais, et puis en plus, si vous commencez à confondre l'exécutif et le législatif au sein d'une démocratie directe, vous avez le despotisme d'assemblée. Je veux dire, et les Grecs, ils en ont fait les frais aussi. Dès l'Antiquité grecque, on savait ce que c'était que les vices de la démocratie directe. Hein. Je veux dire, on dit toujours la démocratie grecque, mais elle fonctionnait pas toujours bien, loin de là. Et encore, ce n'étaient pas les mêmes tailles de communauté, hein, je veux dire, ni les mêmes conditions de communication, ni les mêmes conditions économiques, etc., etc.
Donc le système républicain, c'est un système assez peu répandu, en définitive. C'est un système privilégié, en définitive. Enfin, privilégié,
c'est un système dont l'originalité, c'est de s'être développé en Europe et ensuite exporté dans quelques pays. Il y a quand même quelques pays qui sont des républiques. Qui demande, je dirais, des choix assez drastiques, assez importants. Et je pense qu'en grande partie, ces systèmes se sont construits contre la religion. De ce côté-là, je pense que les démocraties républicaines, il fallait se débarrasser de la religion, la mettre entre parenthèses pour adhérer à la communauté républicaine. Et évidemment, je veux dire, je suis contre, bien sûr, aussi tous les régimes ethniques, nationalistes, etc. Il n'y a pas de raison de... Non, il faut que, au fond, ma conviction, c'est que les hommes étant quand même raisonnables, même quand ils sont pleins de malignité, on peut compter sur leur intelligence. Mais encore faut-il les mettre dans la situation d'utiliser leur intelligence et pas flatter leur plus bas instinct, quoi. Je suis en train de lire, je ne l'avais pas lu jusqu'ici et je ne peux plus m'en sortir. Je suis en train de lire la femme qui a eu le prix Nobel cette année, Svetlana Alexievitch, sur la guerre et les femmes. Je trouve souvent l'écho de ma vision de l'homme là-dedans, parce que l'homme est à la fois épouvantablement méchant et en même temps épouvantablement humain. Bon, moi, je parie pour le côté humain en essayant de promouvoir tout ce qui s'oppose à la sottise et à la méchanceté. Voilà. Y compris en étant contre la bienveillance.
Eh bien, merci. Bonne lecture.
Merci. Merci, Francis.
De rien.